Merci d'écouter RFI 21h temps universel, 22h à Paris, 1h de plus à Chisinau.
Baptiste Coulon.
Bonsoir à tous, direction la Moldavie dès le début de ce journal. Second tour de l'élection présidentielle ce dimanche et de première tendance ce soir. Le candidat proche de la Russie devance la présidente pro-européenne. Mais prudence, c'est encore loin d'être fait, nous dira notre envoyé spécial sur place. L'Espagne, 5 jours après les inondations meurtrières, la colère des sinistrés face aux autorités aujourd'hui. C'est tout un modèle de société qu'il faudra repenser pour éviter de telles catastrophes, nous dira un spécialiste. Dans ce journal aussi, la vidéo d'une étudiante en sous-vêtements agite l'Iran 2 ans après la mort de Mahsa Amini. Et puis la campagne américaine et le Canada qui s'inquiète d'un retour de Donald Trump au pouvoir en raison des taxes sur les importations que promet d'établir le milliardaire. Direction donc la Moldavie pour débuter ce journal. Les premiers résultats du second tour de la présidentielle viennent de tomber. Le candidat du Parti socialiste Alexander Stoyanoglu mène de peu face à la présidente sortante pro-européenne Maia Sandu. Julien Chavan, on vous retrouve en direct de Chisinau. Vous êtes au quartier général de Maia Sandu où son camp reste confiant.
Oui, parce que si Alexander Stoyanoglu est à l'heure actuelle en tête avec environ 51% des voix, après le dépouillement de 90% des bulletins, la bataille est loin d'être finie. Cet ancien procureur qui veut un rapprochement avec la Russie bénéficie du vote des villes rurales, mais on attend encore les derniers résultats dans les grandes villes, beaucoup plus favorables à la présidente sortante. Et c'est surtout le vote de la diaspora qui pourrait encore faire la différence. Un Moldave sur 4 vit hors du pays et seulement 17% des bureaux de vote à l'étranger ont été comptabilisés. Pour l'instant, donc rien n'est encore joué. Maia Sandu peut encore espérer garder son fauteuil. D'ailleurs, et c'est peut-être un premier indice, Alexander Stoyanoglu a pris une nouvelle fois la parole il y a quelques minutes pour appeler au calme et demander à ses partisans de respecter le résultat des urnes.
Le vote aujourd'hui a été marqué, comme au premier tour, par des incidents, Julien.
Et la police enquête sur l'organisation de vols et de bus pour transporter des électeurs moldaves entre la Russie et la Biélorussie, l'Azerbaïdjan ou encore la Turquie, sans compter les nombreuses alertes à la bombe dans des bureaux de vote ici en Moldavie, mais aussi à l'étranger. L'équipe de Maia Sandu dénonce des opérations massives d'interférences menées encore une fois par la Russie.
Merci à vous Julien Chavan, vous êtes l'envoyé spécial de RFI pour suivre ces élections en Moldavie. C'est l'image du jour en Espagne. Le roi Felipe VI, la reine Laetitia et le premier ministre Pedro Sanchez insultés et visés par des jets de boue dans la ville de Paiporta au sud de Valence. Les sinistrés des inondations ont exprimé leur colère alors que les autorités se rendaient à leur chevet. Visite qui a dû être écourtée. Il faut comprendre la colère et la frustration des personnes affectées par les inondations, dit ce soir le roi d'Espagne. Quant à Pedro Sanchez, le premier ministre, il condamne tout type de violence. Le bilan final de ces inondations n'est pas encore connu. Il fait état de 217 morts pour l'heure. Ce qui est en revanche bien connu, c'est le phénomène météorologique de la goutte froide qui a provoqué ces inondations. Phénomène à l'origine de catastrophes identiques par le passé. Alors c'est tout un modèle de société qu'il faut repenser pour faire face à de nouveaux drames, estime l'historien spécialiste de l'Espagne, Benoît Pellistrandi.
Il y a régulièrement des inondations avec des morts. Alors c'est vrai que il faut remonter à 1982 pour retrouver un épisode presque aussi dramatique. Il y a eu presque 80 morts. Et puis en 1957, il y a eu de grandes inondations qui avaient donné lieu à un réaménagement tout à fait considérable de la région de Valence et notamment le détournement du fleuve Turia, dont on dit aujourd'hui que heureusement qu'il a été fait parce que sinon ça aurait été absolument encore pire avec les pluies de mardi dernier. Et avec le réchauffement climatique, on le sait, c'est une mutation des esprits qui doit être faite, mais par l'ensemble de la société. Je dirais, c'est trop simple de dire c'est de la faute du gouvernement. Nous sommes tous responsables de la manière dont nous avons surdensifié la côte méditerranéenne, dont nous attendons de ces régions qu'elles nous donnent à la fois le loisir, l'agriculture, l'économie, le plaisir. Et tout ça, effectivement, a un coût considérable. Et quand je dis ça, je ne veux pas accuser les populations de Valence qui sont aujourd'hui dans une situation dramatique.
Hein. À propos recueilli par Grégoire Motte, j'ajoute que ce soir, la communauté de Valence est à nouveau placée en alerte rouge en prévision de fortes pluies. Les habitants appelés à rentrer chez eux par les autorités.
RFI.
Au Proche-Orient, Israël poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza. Aujourd'hui, 30 morts recensés dans le nord et le sud de l'enclave, indiquent la défense civile et le ministère de la Santé du Hamas. La guerre au Proche-Orient encore et Benjamin Netanyahou qui menace le Hezbollah de riposte ferme en cas d'attaque contre Israël. Le premier ministre israélien en visite aujourd'hui à la frontière israélo-libanaise. Menaces verbales qui n'ont pas dissuadé la milice chiite qui dit ce soir avoir tiré des missiles sur une base militaire près de Haïfa en Israël. Ces menaces et ces bombardements alors que l'Iran, de son côté, indique qu'un cessez-le-feu entre ses alliés et Israël pourrait influer sur la riposte que Téhéran promet à l'État hébreu. Riposte aux frappes israéliennes qui ont visé plusieurs infrastructures militaires iraniennes le 26 octobre dernier. Et on reste en Iran où une vidéo fait le buzz depuis hier soir, celle d'une jeune étudiante en sous-vêtements dans la cour de l'Université libre de Téhéran. Et cela un peu plus de 2 ans maintenant après la mort de Mahsa Amini, préalablement arrêtée par la police des mœurs en raison du port non conforme de son voile, sa mort qui avait provoqué des manifestations violentes à travers le pays. Siavosh Ghazi.
Sur la vidéo, on voit la jeune étudiante en culotte et en soutien-gorge assise sur des escaliers alors qu'un gardien est en train de passer un appel. Ensuite, elle se lève et se rend sur l'avenue à l'intérieur de l'enceinte de l'université où elle marche sur plusieurs dizaines de mètres. Elle enlève même sa culotte sur le chemin. Quelques dizaines de mètres plus loin, elle est finalement entourée par des femmes en tchador qui la poussent de force dans une voiture. Selon la version publiée sur les réseaux sociaux, elle a été blessée lors de son arrestation. Elle aurait enlevé ses vêtements pour protester contre les gardiens de l'université qui lui avaient demandé de respecter le voile et ses vêtements auraient été déchirés. Mais pour les responsables de l'université, la version est tout autre. Selon la présidence de cette université, cette jeune étudiante est mère de 2 enfants et a des problèmes psychologiques car elle s'est séparée de son mari. En tout cas, elle a été emmenée au commissariat et pour le moment, elle n'a toujours pas été libérée. Des actrices iraniennes se sont solidarisées avec Ahuda Yari, âgée de 30 ans et étudiante en français. Des avocats ont également affirmé qu'ils étaient prêts à la défendre. Des organisations internationales des droits de l'homme ont demandé sa libération immédiate. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Donald Trump ou Kamala Harris, la course à la Maison Blanche toujours très serrée dans les sondages. Ce qui est en revanche sûr, c'est que l'élection présidentielle américaine est dans 2 jours désormais. Les deux candidats à nouveau dans les états clés du scrutin aujourd'hui. Le Michigan pour Kamala Harris, la Pennsylvanie, la Corée du Nord et la Géorgie pour le candidat républicain. Et dans cette campagne, il est aussi et parfois question d'économie. Et à ce propos, Donald Trump le proclame sur toutes les tribunes. S'il s'installe à la Maison Blanche, il imposera une taxe de 10% sur les importations et peut-être même davantage. Une mesure que le voisin canadien surveille de près. Les États-Unis et le Canada s'échangent environ 3 milliards de dollars de biens et de services chaque jour. Alors cette promesse inquiète surtout les entreprises, en particulier dans la région de Québec. Explication de Pascal Guéricola.
Selon un professeur d'économie de l'Université de Calgary, une taxe supplémentaire de 10% imposée aux États-Unis pourrait faire baisser de 0,9% le revenu réel côté canadien. Au sud de Québec, Boss Atlas, qui fabrique des poutres en acier, vend 80% de sa production aux États-Unis. Son directeur Nicolas Blé songe maintenant à développer le marché intérieur.
Puis on a commencé davantage à faire du démarchage au Québec, puis aussi en Ontario actuellement avec les data centers, les battery plants aussi, toutes les la filière de batterie. Donc c'est certain qu'on fait plus de démarchage depuis 1 an. On a bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer mardi soir prochain.
Une grande partie des exportations canadiennes concerne les automobiles fabriquées à la fois au Canada et aux États-Unis. Yann Simon, spécialiste de ce secteur à l'Université Laval.
Quand on pense qu'un véhicule automobile peut passer la frontière entre 7 et 9 fois entre le Canada et les États-Unis avant d'être fini, donc ça vous donne une idée là, de l'effet multiplicateur de ce que ce fameux 10% là, pourrait avoir pour les automobiles.
Selon lui, l'imposition d'une taxe d'importation nuirait à la compétitivité des voitures américaines, rendant la production européenne et chinoise plus attrayante. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
L'actualité en France, manifestation contre la vie chère dans les Outre-mer cet après-midi à Paris. La diaspora ultramarine a fait entendre sa voix à l'appel d'associations antillaises et canaques. Plusieurs milliers de personnes ont protesté dans les rues de la capitale, un défilé qui s'est achevé sous les fenêtres du ministère des Outre-mer. Rodrigue Petitot était présent, il est à la tête du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. C'est l'une des figures de la contestation en Martinique. Et puis, on termine avec le tennis et le français Hugo Humbert, battu en en finale au Masters 1000 de Paris-Bercy par l'Allemand Alexander Zverev, troisième joueur mondial. Défaite sévère en 2-7, 6-2, 6-2. Alexander Zverev qui cumule désormais 7 titres en Masters 1000. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, 22h10, ici à Paris, 21h10 en temps universel. Merci d'écouter RFI.